Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette seconde émission de rentrée de 2026. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un peu une petite leçon d'économie parce que nous en avons un peu assez d'entendre toujours ces calembredaines dans les différents journaux télévisés et magazines économiques que l'on peut encore croiser. Ou au Parlement, qui est cette fameuse idée que l'on relancerait la croissance par la consommation, ou pire encore, par l'injection monétaire de la part de banques centrales. Alors, on va faire une petite leçon qui est un peu intitulée « Keynes est mort ce soir », parce qu'il n'y a pas que le lion qui est mort ce soir à Wumbaye. Il y a aussi Keynes, et depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, simplement personne ne s'en est rendu compte, donc... Était un peu le temps d'en parler.
Il est le temps d'en parler, c'est-à-dire que Keynes avait cette formule, vous savez, les autres économistes lui disaient « mais à long terme, votre truc ça marche pas », et elle a dit, et il a répondu « à long terme, nous serons tous morts », ce qui était une réponse assez, il était très malin Keynes. Et donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que Keynes est mort, et que malheureusement, ses idées, dont certaines étaient fausses, continuent à être appliquées. Donc, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le mode d'emploi qu'on a dans la boîte quand on est élu, vous savez, quand c'est une boîte, on vous dit la trousse à outils de ce bon Hollande qui disait « moi j'ai ma trousse à outils ».
La boîte à outils.
Et ben la boîte à outils, elle marche pas, mais ça fait rien. On continue à la. Donc Emmanuel, vous avez expliqué ça, puis j'interviendrai de temps en temps à la volée, et à la fin, je ferai une conclusion.
Voilà, ça va être bien. Donc, on va reprendre un petit peu dans l'historique économique. Alors, au milieu du 19e siècle, il existait un journaliste britannique qui s'appelait William Bagot. Alors, William Bagot a fait beaucoup de choses. Il a créé The Economist, entre autres. Il a écrit un bouquin merveilleux sur la Constitution britannique qui fait date chez les constitutionnalistes. Et surtout, il a proposé aussi une solution en cas de panique financière sur les marchés. Alors, à ce moment-là, il disait, voilà, les banques devraient acheter sans limite les actifs illiquides du secteur.
La Banque centrale, bien sûr.
Devait acheter sans limite les actifs illiquides du secteur privé, mais à un coût important pour les détenteurs. Alors, il pensait à ce moment-là principalement aux dettes des entreprises et aux prêts bancaires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, une banque centrale devait acheter temporairement, ce qui temporairement entraîne une augmentation de la masse monétaire, mais n'était pas inflationniste par nature.
Parce qu'ensuite, ces dettes seraient remboursées. Et dans le fond, ce qu'il faisait, ce qu'il recommandait, c'était ce qu'a fait Warren Buffett depuis toujours.
Exactement.
C'est-à-dire que quand les actifs se pètent la gueule, toi, t'as du cash, tu les achètes, ou tu fais des prêts à Goldman Sachs convertibles à 14%, et comme ça, le type, il fait pas faillite, mais il prend une grosse claque quand même. Donc la fois d'après, il fera attention, quoi.
Et c'est ce qu'avait fait Pierpont Morgan pendant...
Pierpont Morgan en 1907, pendant la faillite de 1907.
Qui a été fait, mais ce que la Réserve fédérale n'a pas réussi à faire en 1929, parce que Pierpont Morgan venait de décéder, je crois, et qu'ils étaient...
Voilà, le type qui était doué, et qui avait pris la suite, est mort beaucoup trop tôt, et donc ils ont laissé le prix des actifs monter jusqu'au moment, baisser jusqu'au moment où ça déclenchait une crise financière, parce que des actifs parfaitement valables, eh bien, ont été liquidés et les gens ont sauté, ont fait faillite.
Et alors, c'est assez marrant parce que le krach de 29 a été, évidemment, pour tout le monde, un peu un déclencheur de ce qu'était ce qu'une banque centrale devait faire et surtout ne pas faire. Et ça a été assez marquant pour les décideurs politiques, à tel point que quand Milton Friedman a fêté son 90e anniversaire, Bernanke, à la Banque centrale, a prononcé un discours où il disait « Permettez-moi de terminer mon discours en abusant légèrement de mon statut de représentant officiel de la Réserve fédérale. Je voudrais dire à Milton et Anna, donc son épouse, en ce qui concerne la Grande Dépression, vous avez raison, c'est nous qui en sommes responsables. Nous en sommes vraiment désolés, mais grâce à vous, nous ne le referons plus. » Et ils l'ont refait.
C'est pas qu'ils l'ont refait, ils ont pris des solutions qui, additionnées, vont amener à un désastre aussi, mais différent, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir que Bernanke, c'est lui qui a quasiment foutu le Japon en faillite. Après avoir foutu le Japon en faillite à partir de 2002, c'est lui qui était à l'origine de la crise de 2008-2009. Et pour le remercier de tous ces extraordinaires travaux qu'il avait faits, il a eu le prix Nobel d'économie.
Oui, voilà.
Donc, et pourquoi je l'ai pas, moi? Voilà, c'est un vrai sujet, ça. Bon.
Et alors, donc, Bagot, on vient d'en parler, et L'échec de ce qui s'est passé a conduit Keynes à proposer une seconde solution. Pour lui, le déclin de l'économie n'était pas dû à une crise de liquidité faisant baisser les valeurs des marchés financiers, mais à un problème plus fondamental. Pour lui, lorsque les prix baissent, les épargnants commencent à thésauriser le peu d'argent dont ils disposent. Et donc, c'est une autre façon que de dire que la vitesse de circulation de la monnaie, donc la vélocité, s'écroule. Et c'est ce que Keynes appelait l'esprit animal.
Parce que c'est un moment dans l'histoire où on a pas mal tourné autour de la vitesse de circulation de la monnaie. Il y avait donc Keynes qui en a parlé sous le nom de l'esprit animal là. Et puis il y a
Irving Fisher.
Il y a Irving Fisher qui en a parlé aussi. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé après, qui ont compris. Vous savez, c'est masse monétaire que multiplie vélocité de la monnaie égale price que multiplie quantité. C'est-à-dire que ça vous dit, c'est une espèce de tautologie. Et donc, il peut y avoir des moments où la panique est telle que les gens mettent tous leurs billets dans leur matelas et que plus rien ne se passe et que donc tout s'écroule simplement. Ce qu'avait dit Franklin Roosevelt aussi, c'est que tout ce dont nous avons il faut avoir peur simplement d'une chose, c'est d'avoir peur. C'est-à-dire que la peur peut déclencher des catastrophes. Mais justement, un type comme Walter Bagehot, lui, il cassait la spirale de la peur en achetant les actifs et en refaisant retourner la machine. Quoi.
Et il le faisait par le secteur privé. C'est ça qui est important, parce que arrive Keynes, et Keynes dit non, on va pas faire comme ça du tout.
Il y a quelque chose de vicieux dans le système.
Il y a cet esprit animal. Et on va casser ça en relançant quelque part par une sorte de consommation aussi. Et on va surtout baisser le prix des actifs pour les gouvernements. Donc c'est en fait les gouvernements qui vont relancer la croissance par tout un tas de séries.
Et ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, ce que demande Keynes, c'est que comme la masse monétaire, sa vélocité baisse, MV baisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du M pour remplacer la baisse levée, si tu vois ce que je veux dire, de façon à ce que MV reste constante, quoi. Et à ce moment-là, on met plein d'argent dans le système et ça est censé faire redémarrer l'économie.
Et surtout, ça, si tu réfléchis, ça implique deux conceptions très différentes de l'économie. Dans une, celle de Bagehot, tu n'as pas du tout d'intervention du gouvernement quelque part dans l'économie.
De la banque centrale qui fait son boulot.
Mais dans un monde,
elle était privée. Hein.
Dans un monde sérieux, elle est censée être indépendante et on a toujours dit chez nous qu'elle devait être normalement, constitutionnellement, même dans un monde idéal, totalement indépendante des gouvernements, puisqu'elle est censée être là pour le temps long et les épargnants. Et donc, dans l'idée de Bagehot, c'est de dire on va racheter ses actifs et quelque part accroître
C'est-à-dire ceux qui ont des actifs, ils les ont mis par exemple en dépôt dans une banque, le prix des actifs baisse, il y a des appels sur marge, donc le type est paniqué. Là, si tu veux, la banque centrale lui sort ses actifs, donc ça peut plus baisser. Il prend une claque, mais elle s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas le phénomène d'enclenchement de la baisse qui entraîne la baisse. Et donc, tandis que Keynes dit pas du tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les taux d'intérêt beaucoup pour que la puissance publique puisse s'emprunter beaucoup et dépenser beaucoup de façon à casser cette espèce de système déflationniste qui se met en place. Et donc, on voit bien que d'un côté, il y a les économistes du 19e, mettons, qui disent, le système marche. Sauf que de temps en temps, il a des crises de panique, donc il faut avoir une solution pour la crise de panique. Puis de l'autre côté, il y a Keynes qui dit pas du tout, le vrai problème, c'est l'excédent d'épargne. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est le danger dans le système, c'est l'épargnant, ce qui est une idée bizarre, mais c'est l'épargnant, et donc il faut procéder à l'euthanasie du rentier. Il l'a écrit, l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire que le premier type qu'il faut tuer, c'est le rentier, quoi.
Alors que on a vu par le passé, quand on a fait cette émission par ailleurs sur le prix du temps, que le rentier, en réalité, c'est la seule façon d'arriver à ce qu'on appelle l'approfondissement du capital, qui à terme est la seule façon de faire monter le niveau de vie.
Voilà.
Et ça a été véritablement un réel souci. Alors, on regarde au fil du temps qu'en réalité, tous les banquiers centraux, mis à part Paul Wochner et Alan Greenspan ont toujours été keynésiens, sauf peut-être Arthur Burns qui était peut-être tout simplement incompétent.
Oui, juste... il ne savait pas ce qu'il était, lui. Il était juste nul.
Et voilà, non, mais ça arrive.
ça arrive, de temps en temps, il y a des gars qui sont nommés comme ça. On en a eu plein d'exemples dans l'histoire de France. Donc, c'est très intéressant parce que vous voyez donc, qu'est-ce que dit Keynes? Il dit, il faut qu'il y ait des gens intelligents qui gèrent le système mieux parce qu'il ne gérera pas. Il n'est pas capable de se gérer.
Donc, il est contre l'idée d'une main invisible.
Complètement. Et puis, il y a des autres qui disent, vous savez, c'est pas certain. Les gens intelligents, on les a vus, ils sont pas si intelligents que ça, puis ils font que des conneries et tout. Donc, c'est la vieille opposition entre la main invisible et le coup de pied dans le derrière, quoi. Et Keynes disait, je sais très bien que ce que je fais, c'est très dangereux pour le système, mais en même temps, ça nous a évité d'avoir les communistes au pouvoir partout.
Oui, parce qu'on est dans cette période-là aussi.
Et on est dans cette période-là aussi. Donc Keynes disait, bon, moi, ça donne l'impression au peuple qu'on s'occupe de lui, qu'on a des solutions aux problèmes, tandis qu'évidemment, il y a toute une série d'économistes classiques qui, pendant la dépression de 1930, comprenaient pas trop ce qui arrivait, et disaient, ben, on sait pas quoi faire, quoi. Donc, il faut pas trop charger Keynes, qui était un type extraordinairement intelligent, parce que il est certain qu'à cette époque-là, après la Première Guerre mondiale, les destructions, etc., il y a eu une période de très très grande incertitude, de très grand danger pour les systèmes libéraux, parce que c'était le moment du fascisme, du nazisme, de...
Du reste, il y avait des très bons économistes qui ont fait sauter leur banque centrale.
Oui, c'était ce pauvre Schumpeter, mais ça, c'était pas de sa faute.
Oui, c'est bien ce qu'on dit, c'était une période abominable.
Tu te rends compte, il était devenu banquier central à 28 ans, banquier central à 28 ans, je crois, de l'Autriche. Mais l'Autriche, c'était un empire, et puis là, c'était un tout petit pays qui avait plus rien. Donc, c'était injouable. Donc, ça a été le début de cette énorme opposition entre une économie pilotée et une économie libre. Voilà, c'est là que ça commence.
Moi, j'ai fini, c'est à toi.
Bon, c'est à moi. Alors, je suis bien content. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça ne peut pas ne pas rater. Alors, je vais vous montrer le premier graphique qui est ici. Donc, vous voyez... Vous le mettrez sur le là, vous le voyez, la ligne rouge, c'est les taux d'intérêt réels sur les bons du Trésor à 3 mois. Donc quand vous êtes au-dessus de zéro, ça veut dire qu'il y a des taux d'intérêt réels positifs. Quand vous êtes en dessous de zéro, ça veut dire qu'on procède à l'euthanasie du rentier.
Alors, j'aimerais qu'on prenne 3 minutes, parce que là, on essaie de faire une émission pour tout le monde. Les taux d'intérêt réels, c'est...
Prends le taux, les bons du Trésor à 3 mois, qui sont par exemple à 3%. Si le taux d'inflation est à 2, tu fais 3 moins 2 égale 1, et tu verras 1 sur le côté droit ici.
D'accord.
Mais tu vois que pendant les années 70, on était à moins 6 ou moins 7.
Donc
que
ça, c'est un graphique qui commence en 65, qui
va jusqu'à 65. Donc on a une politique économique normale avec McChesney Martin, qui était le gouverneur à l'époque, suivi de Burns, qui part en couille parce qu'il ne comprend pas que l'inflation arrive. Alors à ce moment-là, Volcker arrive et ramène les taux d'intérêt. On a encore une période où on a des taux d'intérêt de baguette, si tu veux. C'était une période baguettienne, qui va de 1960, donc 81, 82, à 2002-2003.
Ce qu'on appelait aussi les périodes de grande modération.
De grande modération. Ce corneau de Bernanke arrive en 2004-2005 et recommence les bêtises instantanément. Et là, on est à nouveau dans une période un peu positive, mais ce bon Trump fait tout ce qu'il peut pour essayer de le ramener en négatif.
C'est-à-dire que le problème...
C'est curieux de sa part.
Oui, alors c'est curieux, oui et non. Le problème, c'est que Trump est un homme de l'immobilier et que l'immobilier boom toujours avec des taux négatifs, avec des taux bas. Première chose. Deuxième chose, il sait qu'il a une dette absolument incroyable et j'imagine qu'il veut que les intérêts sur la dette soient de le plus bas possible. Donc il demande des taux d'intérêt bas pour ces deux raisons. Mais il doit savoir quand même au fond de lui, quelque part, que c'est contre l'intérêt du peuple et c'est...
Voilà, alors, ça c'est très important. Et alors là, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est que j'ai assuré de bas en haut en vert les périodes, dans le fond, où on a des politiques keynésiennes, des taux d'intérêt négatifs, tu vois. Donc, on est rouge, vert, et puis on est en train de devenir rouge, on va voir si ça va durer. Et donc, ce que dit Keynes, c'est que si les taux d'intérêt sont bas, les entrepreneurs vont investir et que donc la rentabilité du capital va monter et que la productivité va monter. Tu vois, c'est donc on se repart normalement. Ben, regardons, parce que c'est quand même un truc tout à fait extraordinaire. Je prends le deuxième graphique, qui est celui, à nouveau, c'est hachuré en vert.
Attends, montre-moi, parce que le mien, j'ai pas de vert. Ah bah ben, c'est parce que la machine n'a pas du bien fonctionner, voilà. C'est pas grave, voilà. Je vais l'imaginer.
Tu l'imagines, donc c'est hachuré en vert, là. Et ça, c'est la productivité moyenne sur 7 ans. Donc j'aime bien 7 ans, parce que c'est dans la Bible, c'est toujours rigolant. Et j'ai avancé le truc sur 2 ans, parce que les taux soient bas dans une récession, c'est pas très grave, mais il faut pas qu'ils restent bas longtemps. Donc 1 ou 2 ans bas, c'est normal, mais ensuite, faut pas déconner, quoi. Et qu'est-ce que tu vois avec une immense stupéfaction? C'est que pendant la période où les taux d'intérêt sont bas, donc la période verte, hein, donc tout devrait marcher très fort, la productivité s'écroule. Mmh. Alors que dans les périodes où les taux d'intérêt sont élevés, la productivité monte, puis quand la période où les taux d'intérêt sont bas, la productivité s'écroule.
Est-ce que je peux répondre, chef?
Oui.
Alors, je le sais, c'est parce que avec des taux d'intérêt bas, ça entraîne une mauvaise allocation du capital.
Et, voilà.
Et on a vu ça dans l'analyse wexelienne.
Oui.
C'est qu'en général, au lieu de créer des nouvelles entreprises, on préfère racheter son ancienne dette.
Et voilà.
Et on ne crée pas des nouveaux business. Voilà.
Et ben, bravo. Eh bien, c'est exactement ce que je montre. Alors, en troisième page, je vous montre quand même quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est que je vous montre la productivité du capital, encore une fois, en bas, les taux d'intérêt négatifs en vert hachuré, et en haut, il y a le stock de... En rouge, il y a le stock de capital qui est à la disposition du travailleur pour augmenter sa productivité. Plus la ligne rouge monte, plus l'approfondissement capitalistique est fort. Plus elle baisse... Moi, là, et tu vois bien que c'est exactement la même courbe que la productivité. C'est-à-dire que des taux d'intérêt bas empêchent l'approfondissement du capital. C'est-à-dire empêchent la productivité. Et c'est-à-dire empêchent la hausse du niveau de vie de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre.
Mais c'est horrible parce que quelque part, tout notre système est programmé pour se dire un prix bas, c'est bien. Tu vas pas dire, il faut que le prix du beurre soit plus cher, il faut que les taux d'intérêt soient hauts. C'est très difficile pour l'humain de se dire d'aller vers le contraire de ce qui est notre...
C'est tout à fait exact, et c'est là-dessus que jouent les hommes politiques. Ce qui est très étonnant là-dedans, c'est... On va essayer de réfléchir ensemble. Mais ça, c'est des notions, il va falloir que... Là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Si vous comprenez ça, vous aurez tout compris.
Ouais.
Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, vous vous ferez plus avoir par tous les corneaux. Donc, c'est une notion importante, mais chaque fois que j'essaye de l'expliquer à des hommes politiques, ou même à des gérants de fortune, ou à des trucs comme ça, ils me regardent comme si j'étais à la limite du débile. Ce qui est probablement le cas d'ailleurs, mais enfin, c'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et tu as déjà fait allusion, et c'est exactement ce qui se passe. C'est que si la rentabilité marginale du capital est, mettons, à 4%, bon, c'est-à-dire si tu achètes une nouvelle machine, ça va te rapporter du 4%. Très bien. Si tu mets les taux d'intérêt à 2%, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a des tas de gens qui vont se dire, moi, je peux emprunter à 2%, Blackstone, par exemple, ou KKR, qui sont d'énormes sociétés de venture capital. Ils ont un accès quasiment illimité au crédit. Ils empruntent à 2. Ils vont acheter des sociétés à 3, qui donnent du 3. Et ils prendront un effet de levier de façon à arriver à 5, 6 ou 7. Ils vont mettre 20% de capital et 80% de dette.
Surtout quand, dans des pays comme les affaires la française, on a des Draghi qui arrivent et qui font des montages.
Avec 95 milliards d'euros de dette, je me demande comment c'est possible. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que, ben, comme il y a un montant limité d'emprunt possible dans un pays en n'importe quel moment par le système bancaire, ben, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'une partie importante des prêts va à ceux qui vont faire un effet de levier. Donc, la dette augmente.
Oui.
Mais c'est pas une dette productive pour augmenter la capacité de production, c'est une dette qui augmente pour faire un transfert de propriété de ceux qui ont créé la boîte à M. Drahi, tu vois ce que je veux dire. C'est,
Donc ça n'est pas parce que Bernard Arnault rachète tout un tas de commerces pour les mettre sous le giron LVMH que vous avez pour autant une création de nouveaux entrepreneurs en France. C'est juste que...
C'est-à-dire que M. Bernard Arnault prend littéralement la propriété parce qu'on lui permet de la prendre. Si les taux d'intérêt étaient à 4... personne ne pourra emprunter à 4 pour acheter des trucs à 2 ou à 3. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à ce moment-là, tout l'argent disponible irait au nouveau capital et tu verrais la ligne rouge que je t'ai montrée tout à l'heure, l'approfondissement du capital qui se passe. C'est-à-dire que l'emprunt peut servir soit à augmenter la capacité de production, ce qui est tout à fait souhaitable, soit à changer... La propriété de ceux qui peuvent emprunter à ceux qui, dans le fond, n'ont pas ces facilités.
Mais pourquoi est-ce que Keynes n'avait pas vu ça dans, quelque part, son optimisation des taux?
C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas vu, mais... il n'avait pas vu parce qu'il fallait du temps, mais à l'époque, si tu veux, il n'y avait pas... Les KKR, tout ça, ça n'existait pas. Hein. C'est qu'il y avait...
Oui, c'est-à-dire que quelque part, le recours à l'emprunt, au crédit, était quand même beaucoup plus local et dans des montants qui n'étaient pas aussi...
Pas aussi forts. Et alors, je vais faire une petite incidence ici qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais je vais essayer de la faire quand même parce que c'est important à ce point-là. C'est que dans la finance, autrefois, il y a jusqu'à les années 80... Il y avait un capital qui était à l'intérieur de la finance, mettons celui des Rothschild, celui des partenaires de Goldman Sachs, etc., qui était là pour huiler les transactions, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des partenaires qui étaient assis dans une salle comme celle-ci, ils se regardaient bien pour que personne ne faisait trop de bêtises. Puis quand il y avait un coup à faire, ils se précipitaient, ils mettaient leur capital en risque, puis ensuite ils le retiraient, tu vois. Mais il n'était pas énorme, ce capital. Et puis, il y avait le capital des banques, des prêts, etc. C'était normal. Et puis, à partir des années 80, il y a eu un immense mouvement de dérégulation du système financier.
Oui, c'est à ce moment-là que Soros a pu faire ses coups sur
la
livre.
Parce qu'il empruntait, etc. Et à ce moment-là, les banques commerciales ont demandé à pouvoir faire le boulot des banques d'affaires.
Oui, alors c'est très souvent, et c'est quelque chose que Charles a traité dans ses livres antérieurs, qui était la scission, quelque part, entre les banques casinos et les banques de dépôt.
Voilà, on a fait une fusion entre les banques de dépôt et le casino. Quoi.
Il n'est pas logique, quelque part, que des banques comme JP Morgan soient sur le même échelon que la Poste ou la Caisse d'épargne.
Ils puissent avoir des dépôts.
Oui, c'est pas les mêmes.
La quasi-totalité des banques d'affaires dans le temps ne pouvaient pas avoir de dépôts.
Voilà,
ils mettaient leur capital
à part.
À part, c'était un métier à part.
Et ça devrait rester un métier à part.
Mais à partir du moment où tu as fait ça, donc les gens ont pris, les financiers ont pris le contrôle des Crédits Lyonnais ou je sais pas quoi. Et on s'est mis à faire des opérations avec les dépôts des petites gens pour aller prendre la propriété de trucs. Donc le capital financier pour faire des opérations financières a littéralement explosé. Donc,
oui, parce qu'ils ont... et d'ailleurs, ça me fait très peur parce que j'ai encore vu un article sur BFM Business qui est... au business, ce que je suis à la couronne d'Espagne, et il disait l'épargne des Français est deux fois supérieure au montant de la dette française. J'ai dit, mais ça, c'est une équation qui n'a pas lieu d'être, et le fait qu'il la fasse me fait grand peur.
Absolument. Donc, je vous donne un exemple qui m'avait scandalisé. Je suis difficile à scandaliser, parce qu'à mon âge, on en a vu des saloperies. Mais il y avait une firme anglaise qui était assez importante, qui était une société justement de private equity, donc qui faisait ce genre de trucs, qui avait pris le contrôle d'une grande société de distribution en Grande-Bretagne. Et je raconte d'autant plus que je connaissais bien, c'était un copain d'ailleurs, le gars qui gérait la boîte anglaise. Pas la société de distribution, la boîte financière. Donc, ils ont pris le contrôle en bourse, littéralement, de la société de distribution, là. Ils l'ont retiré du marché. Ils ont pris des dettes pas possibles avec ces dettes, ils se sont payés un dividende monstrueux. Et 3 ans après, la société anglaise fermait. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils avaient, c'était un pire d'épave.
Mais quand tu dis des dividendes monstrueux, c'est quoi, des millions ?
Ah mais c'était 2 ou 3 fois ce qu'ils avaient payé à la boîte.
Mais non.
Donc ils ont saigné à blanc la boîte pour pouvoir se payer un dividende monstrueux. Comme ça, ils n'avaient plus aucun risque dans la boîte. Et ce qui arrivait à la boîte, après, ils n'en avaient plus rien à foutre.
Et voilà. Et personne, évidemment, il n'y a aucune régulation de ce genre de choses ?
C'est difficile à contrôler parce que c'est. Mais tu vois le genre d'imbécile, le genre de truc à quoi ça amène. C'est-à-dire, ça amène à une concentration des richesses chez ceux qui ont la possibilité d'emprunter. C'est les. Et cette concentration de richesses, comme elle n'amène pas de gain de productivité, pour payer les intérêts, il faut virer la moitié des mecs qui bossent. Et donc
ça, vendre mal ou
et donc ça veut dire que les petites gens s'appauvrissent et ceux qui peuvent emprunter, ceux qui sont près de la banque centrale, etc., s'enrichissent comme des corneaux.
Ouais, encore une
donc,
fois.
Donc une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que il est normal de déréguler la production de voitures, la production de je sais pas quoi, de téléphones, tout ce que tu veux là, mais la monnaie. C'est un machin qui ne peut pas être dérégulé puisque tu ne fais pas de gain de productivité par la dérégulation.
Non.
Tu fais monter un système qui est injuste. Donc, ce que je dis aux gens, c'est plus personne n'est plus libéral que moi, mais la dérégulation de la monnaie, c'est une saloperie. La monnaie ne peut pas être dérégulée. Et pour moi, c'est un élément extrêmement important parce que déréguler la monnaie, c'est dans le fond donner un pouvoir de création et d'utilisation de la monnaie à une classe parasite qui est là, quoi, et qui ne demande qu'à agir. Donc, quand les gens appellent ça libéral, je dis c'est pas libéral du tout.
Non.
Le libéralisme, il fonctionnait avec les talons or, où personne pouvait aller. Tu vois ce que je veux dire? C'était. Donc. Aujourd'hui, ça nous laisse dans un monde où on est. Où je suis extrêmement embarrassé. Et j'arrive à me dire. Une question intéressante, c'est mais à quoi servent les banquiers centraux ?
Aujourd'hui, pas à grand-chose, parce qu'on a vu depuis un moment que déjà le seul lapin qu'ils aient dans leur chapeau, c'est faire du QE, c'est-à-dire
D'imprimer plus d'argent.
D'imprimer plus d'argent. Et en général, là, ce qu'on se dit dans le monde qui arrive, c'est que la seule chose même qu'ils aient en face de ce qui arrive, c'est de doublement imprimer, c'est-à-dire appuyer 2 fois sur la pédale d'accélération.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves dans une période verte avec des taux d'intérêt très bas, etc. Et l'or passe au travers du toit.
Comme on est en train de voir en ce moment. Tous les refuges sont en train d'exploser. Les gens, à mon avis, aussi vont même sur l'argent parce qu'ils finissent
il faut bien diversifier
un petit peu.
Le bitcoin qui marchait bien a eu 2 ou 3 petits pets sous la ligne
on
de flottaison, là, un pet au casque, là.
Les S&P, Nasdaq fonctionnent sur l'IA, mais tout le monde se dit potentiellement, on l'entend partout, ça peut être une bulle, Du coup, les valeurs refuges,
elles font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que. Alors. La question qu'on arrive, c'est. Les banques centrales ont été créées, la première, ça a été au 18e, je crois, par la Suède. Première banque centrale. Puis ensuite, il y a eu l'Angleterre, et puis on a eu d'autres derrière. Et dans le fond, c'est qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que vous aviez d'un côté la trésorerie de l'État, qui devait être gérée par le ministère des Finances, et puis la gestion de la monnaie, qui servait à l'État, mais dans le fond, qui servait aussi au reste du système, et il fallait peut-être que quelqu'un gère la monnaie indépendamment de l'État, tu vois. Donc c'était un truc assez. Mais quand tu regardes ce qui est en train de se passer, tu as une capture des banques centrales dans nos pays par les trésoreries, les ministères des Finances.
Oui, mais Il y a un vrai problème au-delà de ça, si tu veux, c'est que on le dit souvent, c'est que depuis la forfaiture de Lisbonne, sachant qu'on avait tous signé Maastricht, ici vous avez des représentants du non, mais bon, on nous a pas écoutés, on nous a mis ça, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons plus de banque centrale française. Donc aujourd'hui, nous avons...
Ce qui est déjà une forfaiture.
Ce qui est déjà une forfaiture. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte à partir du moment où on n'a pas notre monnaie et on ne peut pas justement avoir cet instrument de visibilité qu'est notre propre devise? On ne peut pas...
Notre propre taux de change, autrefois.
On avait notre taux de change et notre propre taux d'intérêt. Donc, à partir de là, à partir du moment où on n'a pas de taux de change et pas de taux d'intérêt, comment voulez-vous que on puisse gérer l'économie productive de notre pays?
C'est-à-dire, le taux d'intérêt, c'est le prix du temps, le risque du temps, et le taux de change, c'est le risque de la géographie. Hein. Ben, on a mis des faux prix sur ces deux trucs-là. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous devez faire, quoi. Donc, vous êtes là, vous êtes tout perdu. Et on a transformé notre... Qu'est-ce que c'est que le système capitaliste? C'est un système qui fonctionne avec des informations. Et des informations, elles viennent du marché. C'est les taux d'intérêt et les taux de change. Tu vois, c'est donc le prix du temps et le prix de la géographie. Mais si tu enlèves aux entrepreneurs ce système d'information, tu te retrouves comme en Union soviétique avec les Izvestia et la Pravda. Hein. Il y avait pas de nouvelles dans la Pravda, il n'y avait pas de vérité dans les Izvestia. Je veux dire, c'était l'homme. Donc aujourd'hui, on nous a bâti des systèmes qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité.
Non, mais alors...
Les systèmes monétaires, c'est...
C'est pour ça que j'en veux beaucoup aussi à tous les politiques qui, quand ils s'approchent de ces notions, n'ont pour réflexe que de dire des choses comme « nous allons relancer la croissance par la consommation ».
Mais comment ils vont faire? Ils vont baisser les taux d'intérêt. Donc, ils vont prendre... Il faut bien savoir que des taux d'intérêt bas, négatifs, les périodes vertes sur le graphique, c'est des périodes où la banque centrale se croit autorisée à mettre des impôts sur l'épargnant, sans qu'ils aient été votés par personne.
La fameuse euthanasie du rentier.
Voilà,
parce
c'est-à-dire...
que vous prêtez votre épargne, vous la mettez en livret épargne, vous la mettez en PEL, c'est-à-dire vous la thésaurisez et vous la prêtez en demandant, et ce qui est logique, à ce qu'elle soit rémunérée. Or, on s'est tous rendu compte sur ce qui était avant les codes EVI et ainsi de suite, que ça ne donne plus rien. Ça...
Aujourd'hui, si vous voulez, prenons un exemple. Mettons qu'il y ait, allez, on va faire des calculs à la noix, 2000 milliards d'euros de l'épargne française investis dans les obligations françaises. Donc, si les taux d'intérêt sont à 3 ou à 4, mettons à 3, allez, 2000 milliards, ça fait qu'il y a 36 milliards qui sont gagnés par cette épargne. Et qui peuvent aller dans la consommation ensuite, donner de l'argent aux petits-enfants, leur prêter de l'argent pour acheter une maison. Enfin, tu vois, ça donne un pouvoir d'achat aux épargnants. Zéro. Ça veut dire qu'on a mis on a mis un taux d'impôt de 100% sur l'épargne de Madame Michu. Mais de quel droit?
Moi, je
me souviens. Puisque l'impôt se vote.
Quand j'étais petite. Ton père, mon grand-père, qui avec sa solde, nous ouvrait quand on était petit un livret épargne à la caisse d'épargne. Et il nous avait donné une fois une pièce de 50 francs en argent.
Tu aurais bien fait de la garder parce qu'elle est beaucoup montée.
Et on avait un petit livret bleu, comme ça. Et je regardais les 500 francs qu'il avait mis, combien ça croissait tous les ans. Et j'étais très fière. Alors, il y avait quelqu'un qui écrivait, qui me disait 505 francs 75. J'étais là, oh là là, 5 francs 75 en plus, c'était le plus.
Voilà, mais c'était. Il y a une espèce de. J'avais un ami qui a été ensuite ministre, etc., qui donnait de l'argent de poche à ses enfants, avec un truc que je trouvais dégueulasse. C'est qu'il disait, bon, je te donne de l'argent de poche, mais si tu le déchemanges pas, je te donne le double à la fin. Donc, c'était pour apprendre le côté...
Oui, je n'attache pas mes chiens avec des saucisses.
Les saucisses, c'était très bien. Et donc, la politique keynésienne, c'est un impôt non voté sur l'épargnant. Et donc, ça fait baisser le taux d'épargne.
Ça fait baisser le taux d'épargne, ce qui empêche, comme on l'a vu, l'approfondissement du capital. Et par ailleurs, dans un monde mondialisé qui est le nôtre, parce qu'il faut quand même... au bout d'un moment dire ce qui est. Je ne vois pas en quoi acheter des baskets Nike et acheter des iPhones va relancer la croissance française. Parce que, encore une fois, la consommation étant ce qu'elle est, les gens ne vont pas forcément aller vers le fait d'aller au restaurant ou ainsi de suite comme on le voudrait. Et puis, vous pouvez pas...
Ils vont faire, s'ils vont se
l'idée
dire, bon,
de flécher la consommation, ça c'est ouh, c'est...
Ça marche pas. Ou bien alors, ce qu'ils vont faire, s'ils vont se dire chouette.
Partons tous à Bali.
Passer des vacances.
Bah, ce que font les Gaulois, ils vont tous crapahuter avec leurs soldes.
On les voit partout.
La dernière fois, je regardais un reportage, je t'avais raconté sur les ananas. Et je sais pas, c'est au Costa Rica. Alors ils disaient, ah voilà, c'est des ananas super sucrés et tout. Qu'est-ce que tu vois, des flopés de Gaulois qui étaient là. Qu'est-ce que vous foutez au Costa Rica? Tu sais, parce
c'est
qu'ils
très
sont
bien
partout.
Le Costa Rica. C'est très joli. C'est un pays tout à fait.
Mais tout à fait. Mais tu te dis, mais c'est marrant. Il y a pas des Allemands, il y a pas des Anglais. Non. Il y a des Gaulois absolument partout.
Et ils sont là.
Il y a pas des Bataves. Il y a des Gaulois partout.
Donc, mais évidemment, parce qu'ils sont le peuple, je crois, en France, en tout cas en Europe et aux États-Unis, et je sais pas dans le reste du monde, qui travaille le moins d'heures. Donc, on travaille 1700 heures de moins que je sais pas quoi, les Allemands, je sais pas quoi. Donc, on est en train d'arriver aujourd'hui à une espèce de conflagration qu'on vous annonce depuis un certain temps. Entre les besoins de l'État et l'épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette théorie keynésienne justifie, et au-delà de ce qui est nécessaire, le vol de l'épargne par les États. C'est ça, ils disent, ah mais Keynes a dit que c'était l'épargnant, c'était pas un type sympathique, il fallait le liquider.
Et surtout, ce qu'il y a d'horrible, c'est que quand vous écoutez les médias, la doxa classique a l'air de dire... Oui,
que ça a marché.
Non seulement que ça a marché, mais de dire oui, mais alors Charles Gave, il a cette opinion, mais vous voyez, l'économie, je peux en prendre, je peux en laisser. Non, il y a les choses qui marchent. C'est pas mon avis sur la littérature classique et Baudelaire a dit et Mallarmé a dit et puis quelque part le loup romantique peut être perçu. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'économie, il y a quand même fondamentalement des trucs qui marchent.
Ça marche pas.
Donc, quand on vous prouve que ça marche pas avec des graphiques, venez pas me dire, oui, mais il y a différentes façons d'interpréter. Non.
Si vous faites baisser, comme sur le long terme, et ça, il n'y a pas un économiste qui peut dire le contraire, l'épargne est égale à l'investissement. Si vous faites baisser l'épargne, vous faites baisser l'investissement, vous faites bosser l'approfondissement capitaliste, et vous appauvrissez les pauvres gens. C'est eux les premières victimes. Et personne ne peut me dire le contraire. Donc, toutes les politiques suivies par la gauche, etc., ça a été d'appauvrir les pauvres gens. C'est quand même curieux, quand même.
Et on le voit, c'est-à-dire qu'on le dit tout le temps, et tu l'as dit quand... Alors, les paysans, c'est catastrophique. Et encore une fois, bon, puisque tu parles des paysans, j'aimerais faire juste une petite ouverture sur le Mercosur dont on a parlé. C'est-à-dire, j'entends souvent certains d'entre vous sur les réseaux sociaux dire « Mais Madame Gave, c'est pas normal que vous ne soyez pas pour le Mercosur, puisque quelque part, c'est libéral dans l'échange. » Oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour un libéral, le fondamental de l'échange, c'est le contrat. Or, dans n'importe quel contrat synalagmatique, les deux parties doivent y trouver leur compte. Si vous vous retrouvez dans un contrat qui est biaisé, qui est dolosif, quelque part, pour une des parties, par essence, vous n'êtes plus dans quelque chose de libéral. Le libéralisme part du principe dans l'échange de la main visible. C'était l'idée chez Adam Smith que, quelque part, quand vous échangez des draps contre des fromages, les deux parties sont heureuses, moi d'échanger des draps, toi d'échanger des fromages. Il n'y en a pas une qu'on doit taper avec un gros bâton pour qu'elle accepte.
C'est-à-dire que la base du libéralisme, c'est l'échange volontaire.
Volontaire et... où les deux parties ressortent en satisfaction.
En plus, si vous voulez, c'est que quand on avait le libéralisme à Adam Smith, vous étiez sous l'étalon or et l'État ne pouvait pas avoir de déficit. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que l'État emprunte parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Il faut bien voir que quand les taux d'intérêt sont trop bas, vous transférez de l'argent de l'épargnant à l'État.
Oui.
C'est un transfert d'argent, c'est un impôt, c'est un transfert d'argent. Donc, quand vous faites ça, vous avez fait un transfert d'argent à l'État, vous avez augmenté les impôts, mais encore une fois, vous n'avez pas demandé la permission aux gens.
Non.
Et deux, la deuxième chose qui se passe aussi, c'est que ces impôts, vous avez emprunté pour lever de l'argent, et encore une fois, c'est pas vous qui allez payer, c'est vos petits-enfants. Donc, vous, le libéralisme aujourd'hui, ça revient à dire, moi, j'ai le droit d'emprunter pour vivre comme un cochon. D'ailleurs, j'ai pas fait d'enfant. Et puis, les autres, ben, ils peuvent crever parce que moi, je serai pas là, ça m'est égal. Donc, quelque part, un libéralisme de bonne qualité, ça suppose que l'État n'a pas le droit de faire des déficits. Et que, les taux d'intérêt sont déterminés par le marché. Ben, c'est ce qu'on a en Suisse. C'est ce qu'on a en Suisse. La Suisse, ils s'amusent pas à ces conneries, hein, c'est, Donc, me dites pas que c'est des systèmes libéraux, c'est des systèmes où l'État a été capturé pour favoriser une partie de la population. Parce que quand vous regardez le graphique suivant, que je vais vous montrer là, qui est dans le fond l'évolution historique des politiques aux États-Unis. Vous voyez que vous avez Mac Chesney Martin, qui était un type très bien, Burns, qui était un incompétent. Bon, on a une grosse période de keynésianisme là pendant les années 70. Mmh. On en sort avec Volcker et Greenspan. Puis ensuite, on a Bernanke, on a tous les crétins derrière. Bon, ça redevient jaune là, tout du long. Donc, si je devais être parfaitement objectif, je dirais, dans les périodes bleues, on a des banquiers centraux qui font leur métier, qui sont des gens honorables et tout. Et dans les périodes jaunes, on a des banquiers centraux qui sont mis là par les grandes banques d'affaires pour leur permettre de gagner plein de pognon. Ce que je veux dire par là, c'est que emprunter à trop bon marché pour acheter des affaires, c'est quelque chose qu'un banquier d'affaires va faire, tu vois, ça fait partie de son métier. Donc ici, tu gères pour le peuple, pour la population, et là, tu gères pour les banquiers d'affaires.
Alors, même si j'aimerais rappeler que dans cette période, donc, qui est sur le graphique que tu appelais le Great Moderation, et la première chose qu'a fait Volcker, ça a été de remonter les taux à deux chiffres.
Et dans on les a mis à 15 ou 16%, et tout le monde était. Tous les gars qui avaient emprunté là, pendant la période jaune, eh ben, ils ont plus rien emprunté après, hein, parce que d'abord, ils avaient disparu.
Voilà. Ils sont littéralement, suivant la formule de Warren Buffett, retrouvés en maillot de bain une fois que la marée.
Sans maillot de bain, oui.
Sans maillot de bain quand la marée
descendait. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, depuis les années Clinton, etc.
Ce qui nettoie la spéculation.
Oui. Ça empêche la spéculation.
Oui, ben ça nettoie tous les spéculateurs. Ça parce nettoie, que là, il n'y a plus d'appel de marge, il n'y a plus de machin. Tout le monde.
Tout.
Tu mets les taux
et
à deux
là,
chiffres.
Et là, vous avez eu, dans la période bleue qui a duré 25 ans, à la fin de cette période, les États-Unis étaient en excédent budgétaire. C'est-à-dire qu'ils avaient... Il y avait plus d'inflation.
Je me souviens, donc, dans les années 90, tu vois, tout ce qui est comme ça. J'allais au printemps en Galerie Lafayette, il y avait des Américaines. Et moi, je venais pour acheter un maillot de bain pour l'été. Et donc, tu achetais un maillot de bain. Et les Américaines, avec leurs dollars, elles achetaient la boutique. C'est-à-dire, elles repartaient avec 15 maillots. Genre, oh, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, celui-là,
voilà,
il est bien. Elles repartaient avec la boutique.
C'était une période où le dollar est monté comme une fusée. Et là, au début de la période, l'or était à 800 dollars par once. Tu vois, là, en 78-79. Le début de la période ici, l'or était à 800. À la fin de la période, en l'an 2000, là, on était à 200. C'est-à-dire que l'or était passé de 800 à 200. Et depuis, on est passé pendant la nouvelle période jaune, on est passé de 200 à 4000.
Incroyable.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu as, j'ose dire, des vrais... qui justifient leur boulot, que des vrais banquiers centraux qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui font leur travail et qui sont pas... Et là, tu as des crapules. Là, ce sont des crapules.
Ou des incompétents, parfois. Dis-moi, on a vu là que Trump, avec sa diplomatie habituelle, passait son temps à taper sur Powell.
Il veut le ramener en dessous, je comprends pas.
Powell, hier, a fait un discours en disant « Je suis désolé, moi je fais mon boulot de banquier central et par ailleurs, j'aimerais bien qu'on me laisse le faire parce que, constitutionnellement, c'est mon boulot. » Donc, pour l'instant, ils sont dans cet antagonisme, les deux. Alors, est-ce que Trump fait exprès de faire ça, comme ça, si sa politique extérieure ne fonctionne pas, il pourra dire c'est la faute de Powell, même si c'est pas du tout de sa faute, ou est-ce qu'il cherche vraiment à le déloger et à faire ce qu'il veut lui?
Je crois que Trump est un type qui, s'il a pas tous les pouvoirs, il considère qu'il a aucun pouvoir, quoi. Et
Ce qui est quand même un peu embêtant dans sa psyché à lui, hein, ça.
Absolument, absolument. Il a pas que des défauts, mais.
Mais il a pas que des qualités non plus.
Ce qui s'est passé.
C'est un peu autocratique quand même.
Complètement. Et en plus, si tu veux, tu vois très bien quand Volcker est arrivé, il avait été nommé par les démocrates, et puis bon, il a monté les taux d'intérêt à 15 ou 16%. Rien n'a pas dit un mot. Ensuite, il a mis Greenspan, qui a continué à très bien gérer. Ils n'ont pas dit un mot. Donc, gueuler parce que les taux d'intérêt réels sont à 1%, 0,995 là.
Non, mais surtout,
il fait bien de foutre la paix à Powell, quoi, c'est
non,
tout.
Non, mais j'ai trouvé qu'il était
injuste.
Injuste, et il est par ailleurs allé dire, bon, je sais plus quelle conférence de presse, je parle de Trump, oui, Monsieur Powell qui fait construire une salle à la Federal Reserve pour X millions, alors que nous refaisons une salle de bal que tous les États-Unis veulent, et on le fait pour beaucoup moins cher. À chaque fois, il dit nous, tu sais, oui. Alors qu'il parle de lui, genre la personne royale. Et je dis, mais quel est le rapport? Tu penses bien que c'est pas Powell qui fait construire, il délègue ça à des gens de la Fed.
Et puis ils ont plein de besoins. Alors, ce que dit
et ça coûte ce que ça
ce
coûte.
Que, ce que
pas...
dit Trump, c'est que dans le fond, on n'a pas besoin d'une banque centrale et qu'on peut faire tout le boulot par le ministère des Finances. Bon, c'est très bien. Mais à ce moment-là, c'est un
après,
recul historique.
C'était parfait, c'est pas l'histoire. Mais là, si les taux, c'est pas un truc avec lequel faire mumuse et que quelque part, un banquier central indépendant, c'est un peu son job.
C'est-à-dire que
même si parfois il y a des cons,
mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ayant vécu à l'intérieur de cette période, si tu veux moi-même une partie de ma carrière, tu n'imagines pas dès que tu veux faire passer les taux d'intérêt de jaune à bleu, là, tu dis non mais arrêtez les conneries, tout le monde te tape dessus.
Mais évidemment. Oui, parce que les gens comprennent pas. Et puis alors.
Non, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a des groupes de pression.
Bien sûr.
Qui sont là, qui payent la presse, qui payent les journaux, etc. Et qui ne gagnent du pognon que par leur capacité d'emprunter si les taux d'intérêt sont trop bas. Si les taux, il n'y a pas eu, personne n'a entendu parler de KKR, etc. pendant ces années-là. Ils sont nés ici dans les années.
Bien sûr, regarde, tout le business de Draghi, de BFM, des leviers qu'il y a eu sur Casino, sur
tout ça,
c'était là. SFR, ça a été rendu possible par les taux bas. Et quelque part, cet enrichissement sans cause de certains a été rendu possible par des LBO et
l'accès au crédit.
Voilà. Et quelque part, l'accès au crédit pour certains a été rendu peut-être trop facile par des banquiers centraux.
Et Draghi,
pour le coup, est un ancien de chez Goldman Sachs.
Non, je crois pas. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que...
Non, je te parle de...
Draghi, oui.
Draghi.
Draghi, il est parti chez Goldman Sachs, mais Draghi, non, je crois pas. Il était... Mais par contre, Bernanke, je crois qu'il a sauvé, soi-disant, pendant la crise financière, etc. Et ensuite, il a été nommé au board d'une des plus importantes sociétés de gestion aux États-Unis.
Oui, bien sûr.
Tu te dis, mais...
Enfin, et le prix Nobel.
Et il est le prix Nobel. Donc, c'est une notion très importante. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui essayent de vous persuader qu'ils sont capables de manipuler l'un des deux prix, les deux prix les plus importants, le taux de change et le taux d'intérêt, dans votre intérêt à vous, que c'est pour protéger parce que vous êtes pauvre. Ben, ils arrivent exactement au résultat inverse. Donc, quelqu'un qui vous dit, je vais maintenir les taux d'intérêt bas, c'est bon pour le petit gars dans le Gers qui est artisan, c'est pas vrai du tout.
Alors, tu sais, la plupart du temps, de mon expérience, les politiques ne parlent même pas des taux d'intérêt parce que je crois même pas sûr qu'ils savent qu'ils existent. Et la seule chose qu'ils vont dire, on va créer des fonds pour relancer la consommation.
Pour relancer la consommation.
Voilà,
l'État va
investir dans XYZ.
On va
pour
faire
relancer
un fonds souverain. Alors aussi,
voilà.
c'est
quand même. Et attention, on va flécher.
On va flécher les dépenses.
Les dépenses. Alors ça, ouais, voilà.
C'est donc.
Quand quelqu'un vous dit on va flécher les dépenses, vous prenez un gros bâton, vous lui tapez dessus. Hein,
vous
s'il
tapez
vous plaît.
Dessus, hein. Vous lui notez. Non, mais donc l'essentiel qu'il faut retenir de ça, c'est que quiconque vous dit qu'il peut intervenir dans les prix du temps et les prix de la géographie et pour améliorer le système, il ment. Il est en train d'essayer de vous enfler parce que ce qu'il cherche à faire, c'est pouvoir acheter pas cher l'affaire que vous avez créée en prenant du levier. Voilà. C'est ça qu'ils cherchent à faire.
Et vous, votre bonne épargne, celle que vous épargnez...
Quand vous aurez vendu votre boîte, qu'est-ce que vous allez faire du pognon?
Oui, mais même, même si vous n'avez pas de boîte, imagine tes salariés, tu mets du pognon, c'est ta retraite, tu vas être rémunéré pour l'argent que tu mets tous les mois et que tu ne dépenses pas et que tu te donnes du mal à ne pas dépenser comme une petite poule rousse qui met sur le côté. Et ton argent de petite poule rousse, à la fin, tu n'as rien dessus, c'est dégueulasse. Alors que tu as épargné toute ta vie.
C'est le crime central, ça, de la social-démocratie. Et ça a été rendu possible par quoi? Par l'euro, parce que ce qui protégeait tout le monde, c'était dans le fond la Bundesbank, vous savez?
Oui, l'as souvent dit.
Et la Bundesbank, on l'a fait sauter en 2000, et mais vous regardez ça... Et
d'ailleurs, souvent tu dis... qu'une des grandes idées de l'euro, ça a été de se payer la Bundesbank.
Oui, on m'expliquait, non, mais la réalité, c'était d'empêcher la Bundesbank de continuer à contrôler pour le monde entier le prix du temps. Donc, parce que les Américains et les Italiens de ce monde voulaient absolument reprendre le contrôle du prix du temps pour pouvoir voler les autres.
Et une fois que le chat n'a plus été là, les souris ont dansé. Hein.
Ah, ben regarde, c'est exactement à ce moment-là que ça a démarré. En 2003-2004, la Bundesbank n'avait plus aucun pouvoir et pan.
Et alors là, ça a été...
Parce que les Américains avaient été obligés de faire ça en 1980, parce que la Bundesbank était là et avait repris le contrôle du temps.
Oui, parce que dans une économie quand même mondiale, à partir du moment où il y en a qui... Voilà, les autres, ça se voit. Une fois, dans une économie normale, les taux changent.
Voilà.
C'est une information.
Quand ça a commencé, les Américains commencent à déconner. Tout le monde achetait des obligations en Deutsche Mark.
Oui.
Moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute la période bleue.
Et ça se passait très bien pour toi.
Très bien, tu étais très content. C'était pas mal.
Oui, c'est ça, t'as ces obligations allemandes, et t'attendais que ça se passe tranquillement.
Donc, c'est une leçon, enfin c'est pas une leçon, c'est une discussion qu'on a, qui est extraordinairement importante, parce qu'on essaye de mettre à jour le mécanisme par lequel il vous enfle sans arrêt.
Voilà, afin de pas se laisser avoir. Donc, encore une fois, retenez, si on doit retenir plusieurs choses, les taux d'intérêt bas, c'est pas une bonne idée, il faut des taux d'intérêt réels qui correspondent à...
Le placement sans risque.
Voilà, ça c'est le premier truc. Le Keynes, sur l'idée que l'État devait investir dans l'économie, s'est planté, c'est pas grave, on l'en veut pas, mais retenez ça, c'est pas son pouvoir et on retiendra l'idée de Bagot qu'on a exposée au début. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne flèche pas l'économie non plus et on ne relance pas par la consommation non plus.
Vous laissez les gens disposer de leur... dans le fond, les périodes jaunes ici, sur le dernier graphique, c'est des atteintes directes aux droits de propriété.
Mais si tu réfléchis plus loin aussi, dans un monde où, de toute façon, l'épargne n'est plus rémunérée, il est logique que les gens aussi se tournent vers l'or, parce que quitte à n'avoir aucune rémunération sur un produit, tu te dis, écoute, zéro pour zéro, autant prendre un truc qui...
On est quand même passé de 240, là, ici, à 2000, à 4500 aujourd'hui, donc... C'est-à-dire, c'est une déroute monétaire. Tu te rends compte, passer de 200... Le dollar est passé de $200 par once... À 4500, il a dû perdre en 20 ans, jamais 95% de sa valeur.
Donc c'est véritablement ce que tu appelles par ailleurs une fuite devant la monnaie, c'est-à-dire que véritablement, plus aucune monnaie aujourd'hui... bon, alors on va voir les monnaies asiatiques, ainsi de suite, c'est encore une autre... Mais en tout cas, dans nos économies, plus rien ne joue, plus rien n'a de valeur. Voilà, donc effectivement, d'où aussi, indépendamment des autres circonstances, le fait que tout le monde se tourne vers l'or, parce qu'on dit... De toute façon, mon épargne, si je la place en PEL, machin, ça me donne rien. Je préfère encore avoir de l'or, effectivement.
Donc, et derrière ça, je suis persuadé qu'il y a aussi l'extraordinaire croissance de la finance dans les 40 ou 50 dernières années, surtout dans les 20 ou 30 dernières, où on a permis à des institutions de conservation de l'épargne, de se transformer en instrument spéculatif et de financer des instruments spéculatifs. Et ça, c'est impardonnable.
Et ça, comment tu verrais, on va conclure là-dessus, mais comment tu verrais, comment le nettoyer, ça? Alors, est-ce qu'il faudrait mettre en place la séparation des banques d'affaires et des
bien
banques
sûr,
de dépôt?
Bien sûr. C'est pas le même métier, quoi.
Ça permettrait, en tout cas, d'arrêter
Et puis, ça permettrait aux gens de dire, vous, par exemple, il devrait pas y avoir de société de capital risque qui soit cotée.
Donc
parce
ça,
que tu ne veux pas appel à l'épargne publique avec des gens qui sont des...
Oui.
Des spinners.
Des
pilleurs d'épave, quoi.
Enfin, des margoulins. Voilà. Oui, voilà, parce que oui, et les gens n'ont pas, ça devrait être effectivement réservé à des professionnels qui le font en leur...
Avec le fonds propre à eux.
Oui, voilà, sans prendre de levier.
Sans prendre de levier, ils mettent le bon moment, paf.
Voilà, tu perds, tu gagnes, mais au moins, voilà, c'est un casino après, voilà. Mais les banques casino, elles n'ont pas à faire appel public à l'épargne. Oui, je suis bien d'accord. Voilà, bon, mais écoutez, j'espère que cette petite leçon sur... un peu le keynésianisme, sa vie, son œuvre autour, vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous. On y répond toujours quand elles sont formulées de manière bienveillante. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
C'est très important de se souvenir quand même qu'un libéral ne peut pas être pour déréglementer la monnaie.
Oui.
Parce que en déréglementant la monnaie, il n'y a pas de gain de productivité. Tu fais simplement la fortune des salopards. C'est pas parce que tu mets plus de monnaie que ça va mieux marcher. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la monnaie, c'est littéralement un privilège régalien et que tu dérégules pas la police, tu dérégules pas la justice, tu vois ce que je veux dire? Tu dérégules pas la monnaie.
Voilà. Eh ben, merci infiniment de nous avoir suivis à nouveau et on vous dit à très vite. Merci
beaucoup.